1375, Ibn Khaldoun, les prolégomènes. Premier discours préliminaire. Ce discours préliminaire servira à démontrer que la réunion des hommes en société est une chose nécessaire. C'est ce que les philosophes ont exprimé par cette maxime, l'homme, de sa nature, est citadin. Ils veulent dire, par ces mots, que l'homme ne saurait se passer de société, terme que les, dans leur langage, ils remplacent par celui de cité. Le mot civilisation exprime la même idée. Voici la preuve de leur maxime. Dieu le Tout-Puissant a créé l'homme, et lui a donné une forme qui ne peut exister sans nourriture. Il a voulu que l'homme fût conduit à chercher cette nourriture par une impulsion innée, et par le pouvoir qu'il lui a donné de se la procurer. Mais la force d'un individu isolé serait insuffisante pour obtenir la quantité d'aliments dont il a besoin, et ne saurait lui procurer ce qu'il faut pour soutenir sa vie. Admettons, par la supposition la plus modérée, que l'homme obtienne assez de blé pour se nourrir pendant un jour, il ne pourrait s'en servir qu'à la suite de plusieurs manipulations, le grain devant subir la mouture, le pétrissage et la cuisson. Chacune de ces opérations exige des ustensiles, des instruments, qui ne sauraient être confectionnés sans le concours de divers arts, tels que ceux du forgeron, du menuisier et du potier. Supposons même que l'homme mange le grain en nature, sans lui faire subir aucune préparation. Eh bien, pour s'en procurer, il doit se livrer à des travaux encore plus nombreux, tels que l'ensemencement, la moisson et le foulage, qui fait sortir le blé de l'épi qui le renferme. Chacune de ces opérations exige encore des instruments et des procédés d'art beaucoup plus nombreux que ceux qui, dans le premier cas, doivent être mis en usage. Or il est impossible qu'un seul individu puisse exécuter cela en totalité, ou même en partie. Il lui faut absolument les forces d'un grand nombre de ses semblables, afin de se procurer la nourriture qui est nécessaire pour lui et pour eux, et cette aide mutuelle assure ainsi la subsistance d'un nombre d'individus beaucoup plus considérable. Il en est de même pour la défense de la vie. Chaque homme a besoin d'être soutenu par des individus de son espèce. En effet, Dieu le Très-Haut, lorsqu'il organisa les animaux, et leur distribua des forces, assigna à un grand nombre d'entre eux une part supérieure à celle de l'homme. Le cheval, par exemple, est beaucoup plus fort que l'homme. Il en est de même de l'âne du taureau. Quant au lion, et à l'éléphant, leurs forces surpassent prodigieusement celles de l'homme. Comme il est dans la nature des animaux d'être toujours en guerre, les uns avec les autres, Dieu a fourni à chacun un membre destiné spécialement à repousser ses ennemis. Quant à l'homme, il lui a donné, au lieu de cela, l'intelligence et la main. La main, soumise à l'intelligence, est toujours prête à travailler aux arts, et les arts fournissent à l'homme les instruments qui remplacent, pour lui, les membres des parties aux autres animaux pour leur défense. Ainsi les lances suppléent aux cornes, destinées à frapper, les épées remplacent les griffes, qui servent à faire des blessures, les boucliers tiennent lieu de peau dure et épaisse, sans parler d'autres objets, dont on peut voir l'énumération dans le traité de Galien sur l'usage des membres. Un homme isolé ne saurait résister à la force d'un seul animal, surtout de la classe des carnassiers, et il serait absolument incapable de le repousser. D'un autre côté, il n'a pas assez de moyens pour fabriquer les diverses armes offensives, tant elles sont nombreuses, et tant il faut d'art et d'ustensiles pour les confectionner dans toutes ces circonstances. L'homme doit nécessairement recourir à l'aide de ses semblables, et tant que leur concours lui manque, il ne saurait se procurer la nourriture ni soutenir sa vie. Dieu l'a ainsi décidé, ayant imposé à l'homme la nécessité de manger afin de vivre. Les hommes ne sauraient non plus se défendre s'ils étaient dépourvus d'armes, ils deviendraient la proie des bêtes féroces, une mort prématurée mettrait un terme à leur existence, et l'espèce humaine serait anéantie. Tant qu'existera chez les hommes la disposition de s'entraider, la nourriture et les armes ne leur manqueront pas. C'est le moyen par lequel Dieu accomplit sa volonté, en ce qui regarde la conservation et la durée de la race humaine. Les hommes sont donc obligés de vivre en société. Sans elle, ils ne pourraient pas assurer leur existence ni accomplir la volonté de Dieu, qui qui les a placés dans le monde pour le peupler et pour être ses lieutenants. Voilà ce qui constitue la civilisation, objet de la science qui nous occupe. Dans ce qui précède, nous avons établi, pour ainsi dire, que la civilisation est réellement l'objet de la branche de science que nous allons traiter. Cela n'est cependant pas une obligation pour celui qui traite d'une branche des connaissances quelconques, attendu que, d'après les règles de la logique, celui qui traite d'une science n'est pas tenu d'établir que ce qu'il pose comme étant l'objet de cette science, l'est en effet. La chose n'est cependant pas défendue, et elle entre dans la classe des actes purement facultatifs. Dieu est celui qui seconde les hommes par sa grâce. La réunion des hommes en société étant accomplie, ainsi que nous l'avons indiqué, et l'espèce humaine ayant peuplé le monde, un nouveau besoin se fait sentir, celui d'un contrôle puissant qui les protège les uns contre les autres, car l'homme, en tant qu'animal, est porté par sa nature à l'hostilité et à la violence. Les armes dont il se sert pour repousser les attaques des animaux brutes ne suffisent pas à le défendre contre ses semblables, attendu qu'ils ont tous ces armes à leur disposition. Il faut donc absolument un autre moyen qui puisse empêcher ces agressions mutuelles. On ne saurait trouver ce modérateur parmi les autres espèces d'animaux, parce que ceux-ci sont loin d'avoir autant de perception et d'inspiration que l'homme. Aussi faut-il que le modérateur appartienne à l'espèce humaine, et qu'il ait une main assez ferme, une puissance et une autorité assez fortes, pour empêcher les uns d'attaquer les autres. Voilà ce qui constitue la souveraineté. On voit, d'après ces observations, que la souveraineté est une institution particulière à l'homme, conforme à sa nature, et dont il ne saurait se passer. On la retrouve, s'il faut en croire les philosophes, chez certaines espèces d'animaux telles que les abeilles et les sauterelles, parmi lesquelles on a reconnu l'existence d'une autorité supérieure, de l'obéissance et de l'attachement à un chef appartenant à leur espèce, mais qui se distingue par la forme et la grandeur du corps. Mais, chez les êtres qui diffèrent de l'homme, la chose existe par suite de leur organisation primitive et de la direction divine, et ne provient pas d'un effet de la réflexion ni par l'intention de se procurer une administration régulière. Dieu a donné à tous les êtres une nature spéciale, puis il les a dirigés. Coran, sourate 20 verset 52. Les philosophes enchérissent sur cet argument lorsqu'ils veulent établir, au moyen de preuves fournies uniquement par la raison, l'existence de la faculté prophétique, et démontrer qu'elle appartient à l'homme, comme inhérent à sa nature. Il pousse cet argument jusqu'à sa dernière limite, en démontrant qu'il faut aux hommes une autorité capable de les contrôler, que cette autorité ne saurait exister qu'en vertu d'une loi émanant de Dieu, et conférée à un individu de l'espèce humaine favorisé spécialement de la direction divine, et que l'homme ainsi distingué a le droit d'exiger de tous les autres la soumission et la foi à sa parole, jusqu'à ce que l'autorité qu'il doit exercer parmi eux et sur eux ne trouve plus d'opposition. Cette conclusion n'est pas régulièrement déduite, ainsi qu'il est facile de le voir, car, avant le prophétisme, l'existence de l'espèce humaine était déjà assurée. Elle se maintenait par l'influence d'une autorité supérieure, qui, tenant sa puissance d'elle-même, ou d'un parti qui la soutenait, avait les moyens de contraindre les hommes à lui obéir, et à marcher dans la voie qu'elle leur avait tracée. Les hommes qui possèdent des livres révélés, et ceux qui suivent les enseignements des prophètes sont peu nombreux, en comparaison des païens. Ceux-ci n'ont pas de révélation écrite, ils forment la plus grande partie de la population du monde, et cependant ils ont eu leur dynastie, ils ont laissé des monuments de leur puissance, et, à plus forte raison, ont existé. Encore de nos jours, ils possèdent des empires dans les régions reculées du nord et du midi. Leur état n'est donc pas celui des hommes laissés à eux-mêmes, et n'ayant aucun chef pour les contenir, état qui, du reste, ne saurait exister. On voit par là combien on a tort de vouloir prouver la nécessité de la faculté prophétique par des preuves fournies par la raison. Les fonctions d'un prophète se bornent à prescrire des lois, ainsi que les anciens, les docteurs de l'islamisme, l'ont reconnu. Un concours efficace, Une bonne direction ne se trouve qu'auprès de Dieu.